« Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement, mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. » On va s'arrêter sur la première partie de ce verset où il y a ce « mieux vaut » qui indique une préférence, quelque chose de supérieur en valeur. « Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. » Ce verset, je l'ai sur mon cœur depuis quelques semaines et j'y ai réfléchi. Et j'aimerais parler avec vous des commencements et de la fin, le commencement, la fin. Peut-être ça va nous amener sur deux, peut-être trois dimanches, je ne sais pas. Mais en tout cas, retenons une chose, c'est que sous le soleil, il y a un commencement à tout et sous le soleil, il y a aussi une fin à tout. C'en est ainsi parce que Dieu l'a voulu ainsi sous le soleil, je précise bien sous le soleil, parce qu'au-dessus, eh bien, nous sommes dans l'éternité avec Dieu et c'est encore un autre domaine. Mais sous le soleil, il y a un commencement, il y a une fin à toute chose. Dire cela, c'est aussi parler de Dieu, de ce Dieu qui est au-dessus de tout. Dieu est le commencement et la fin. Il est même avant le commencement et il sera après la fin. Il est celui qui a créé le monde au commencement, Dieu. Et seul Dieu est infini, seul Dieu n'a pas de début, seul Dieu n'a pas de fin. Il est Dieu, tout simplement. Il est celui qui est au-dessus de tout, il est même au-dessus du temps, le temps étant une de ses créations. Il est avant le commencement, il sera après la fin. Il est aussi avant le commencement de notre propre vie et il sera aussi après notre propre vie, à la fin de notre vie, il sera là aussi pour nous accueillir. Comme il a été là avant le commencement de notre vie, nous étions déjà dans le cœur de notre Père Céleste. Avant même que nos parents nous aient désirés, Dieu, lui, nous désirait déjà. Il nous aimait déjà. Et il avait prévu notre vie avant même que nous nous en soyons conscients. Dieu est donc sans limite, il n'a pas de limite. Mais sous le soleil, nous savons que Dieu a fixé des limites. Et dire qu'il y a un commencement et dire qu'il y a une fin, c'est dire aussi qu'il y a des limites à tout. Parce que Dieu l'a voulu ainsi. Alors, pour illustrer ce propos, j'ai réfléchi à quelle image je pourrais mettre sur l'écran. Alors, au départ, j'avais pensé au concept de la droite infinie en géométrie. Je me suis dit comment dessiner une droite infinie. C'est un peu compliqué, surtout que l'écran est quand même... Il y a des bords à l'écran, il y a un fin, il y a un commencement et une fin à l'écran. Donc déjà, c'est compliqué de tracer une droite infinie, encore plus sur un endroit qui, lui, est bien déterminé, bien fini. Alors, juste pour illustrer ce propos, j'ai choisi ce jeu de cache-cache. Quel rapport, vous allez me dire. Imaginez-vous que vous êtes avec des enfants et que vous lancez une partie de cache-cache. On a tous joué à cache-cache. Et il y a un enfant qui va commencer à compter. Et pendant qu'il compte, tous les autres vont se cacher. Vous êtes d'accord avec moi? Il n'y a rien de compliqué à cela. Sauf qu'on n'a pas dit à cet enfant quand il fallait qu'il s'arrête de compter. Alors, on aurait pu le déterminer à l'avance, dire tu comptes jusqu'à 30, tu comptes jusqu'à 50, tu comptes jusqu'à 100. Mais là, on ne lui a pas dit. Et serait-il possible qu'il s'arrête? Parce que l'on sait qu'on peut compter à l'infini. Mais il ne pourrait pas compter à l'infini parce qu'à un moment donné, il va se fatiguer. Puis ceux qui sont partis se cacher à un moment donné vont dire « Oh, ça dure un peu trop longtemps là pour que tu t'arrêtes ». Ou même il va avoir envie de dormir. En fin de compte, on voit bien que sous le soleil, il y a des limites. Et quand bien même il pourrait ne pas s'arrêter, il aura eu quand même la limite du début, parce qu'il faut bien qu'il commence à un moment donné. Donc il y a quand même la limite du commencement, sans parler de celle de la fin. Sous le soleil, comprenons bien que tout a une fin, tout a un commencement. Notre vie a eu un commencement, notre vie a aussi une fin. Et ce que nous vivons, les périodes de notre vie, ont aussi un commencement et aussi une fin. J'aimerais avec vous lire deux passages. Un dans le livre de Job, au chapitre 38. Job, chapitre 38. Voilà ce que l'Éternel répond à Job, et nous savons dans quelle situation, ce que vit Job lorsque Dieu lui parle. Job est très, très éprouvé. Dieu n'est pas intervenu tout de suite pour parler à Job. Ses amis l'ont accusé de toutes sortes de choses. En plus de ses épreuves, il doit subir les accusations. Et Dieu a attendu avant de parler à Job. Et quand l'Éternel va répondre à Job au verset 38, on voit que, au verset 1er, on voit que l'Éternel a répondu à Job au milieu de la tempête. Job est secoué de tous les côtés. Et les manières dont l'Éternel va parler à Job sont très étonnantes. Et on va lire juste le verset 11. « Quand je dis, tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas au-delà, ici s'arrête l'orgueil de tes flots. » Dieu s'adresse ici, il prend cette image de la mer et il dira « ici s'arrête », donc il y a une fin, « ici s'arrête l'orgueil de tes flots ». On lit maintenant au chapitre 5 de Jérémie, Jérémie chapitre 5, verset 22. Jérémie 5, verset 22. « Ne me craindrez-vous pas, dit l'Éternel, ne tremblerez-vous pas devant moi, c'est moi qui ai donné à la mer le sable pour limite. Limite éternelle qu'elles ne doivent pas franchir. Ces flots s'agitent, mais ils sont impuissants. Ils mugissent, mais ils ne la franchissent pas. » Donc ici, par rapport à ce verset, on voit que Dieu a mis une limite à la mer, et cette limite, c'est le sable, les plages, et une limite qu'elles ne peuvent pas franchir, même s'ils s'agitent en cas de tempête et autres, eh bien, ils reviennent toujours, les flots reviennent toujours à leur place d'origine. Il y a une limite que Dieu a fixée. Et sur cette photo, on voit bien que la limite que Dieu a fixée à l'océan. Ici s'arrête l'orgueil de tes flots. Dieu met une limite à tout. Dieu met une limite à tout. Ce que je voudrais dire ici, c'est que vraiment, il y a une fin à tout ce que nous pouvons vivre. Il y a même une fin à ce que nous sommes. Dieu peut nous faire vivre des choses et elles s'arrêtent pour nous faire commencer sur autre chose. Ici s'arrête l'orgueil des flots, de ton orgueil, les flots de, excusez-moi, l'orgueil de tes flots, excusez-moi, l'orgueil de tes flots. Je suis de la Charente-Maritime, ma famille est de l'île d'Oléron et donc je connais bien l'océan et j'ai vu maintes tempêtes venir, mais à chaque fois après les tempêtes, l'océan revient à sa place, les dunes restent à leur place. Ce que je voudrais dire, c'est que Dieu a mis une limite à nos épreuves. Lorsque les vagues sont là en furie, elles s'abattent sur le sable mélangé aux flots, vagues, etc. Tout est mélangé, l'eau, le sable. Mais à un moment donné, la mer revient à sa place. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13, l'apôtre Paul nous dit que qu'aucune tentation ou épreuve nous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Même les épreuves, même les souffrances ont un terme. Dieu met un terme à tout et il ne permet pas que nous soyons éprouvés, que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Il y a une limite que Dieu ne permet pas, qu'on dépasse. Et pour revenir à Job, on sait l'origine de ses problèmes. On connaît l'origine. On connaît pourquoi Job en est arrivé là. On sait que Satan s'est dressé contre lui. Satan voulait que Job maudisse Dieu. Et Satan a éprouvé Job et Dieu a permis à Satan de le faire. Job a tout perdu, ses richesses, ses enfants, sa santé, il a tout perdu. Et l'estime de ses amis, il a tout perdu. Mais il garde la foi en Dieu. Il garde la foi en Dieu. Job ne savait pas quand ses souffrances auraient un terme. Il savait une chose, et il le dit au chapitre 19, qu'au jour où il mourrait, il verrait Dieu. Ça, oui, il savait que la limite, ce serait la mort, mais après cela, il verrait Dieu. Sauf que Dieu avait prévu une autre limite avant sa mort. Dieu allait mettre un terme. Dieu allait mettre un terme à ses épreuves. Et dans Jacques chapitre 5, verset 11, Jacques chapitre 5, verset 11, il nous est parlé de la fin de Job. Jacques chapitre 5, verset 11. Jésus, gloire à toi. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin. Vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Vous avez vu la fin que Dieu lui accorda. Et pendant tout ce moment où Job a été éprouvé, il nous est parlé de la patience de Job. La patience de Job. Et j'aimerais vraiment que nous puissions comprendre que Dieu met un terme à tout ce que nous pouvons vivre ici-bas. Il met un terme à nos épreuves, il met un terme à nos souffrances, il met un terme aux attaques du diable. Nous avons vu, et c'est vrai que Dieu a permis à Satan d'éprouver Job, mais à un moment donné, il y a une limite que Satan n'a pas pu franchir, parce que Dieu a placé un terme à tout cela. Après cette épreuve, on voit que Job a été béni doublement. Alléluia. Après ce temps de difficulté par lequel certains passent, j'aimerais vous dire que tout a une fin ici-bas. Tout a une fin ici-bas. Il y a des temps de tempête, mais il y a des temps d'accalmie. Il y a des temps d'épreuve, et puis il y a des temps vraiment où tout redémarre, tout recommence. Nous ne voulons pas perdre espoir en celui qui nous tient dans ses mains. Jésus avait, juste avant la croix, il avait pu dire à Pierre, « Satan t'a réclamé pour te cribler comme le froment ». Et effectivement, Pierre a été criblé comme le froment. Et c'est vrai qu'il est passé par un moment difficile. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et c'est vrai que Jésus aurait pu empêcher Satan de cribler Pierre comme le froment, mais il ne l'a pas fait. Mais on sait qu'il y a eu une limite qu'il n'a pas pu dépasser. Il n'a pas pu dépasser cette limite. Il y a un terme aux épreuves, il y a un terme aux difficultés, il y a un terme, il y a une fin. Et après cette fin, il y a quelque chose d'autre qui commence. Dieu a placé donc, comme sur cette image, comme nous l'avons lu, le sable pour limite à la mer. Ici s'arrête l'orgueil de tes flots, dira-t-il à Job. J'aimerais aussi dire autre chose, c'est que personne ne peut par ses inquiétudes, ajouter une seule coudée à sa vie. Il y a une fin à notre vie. Dieu l'a prévu. Ça lui appartient, on ne sait pas quand exactement. Enfin, à moins que Dieu vous ait révélé que vous allez partir aujourd'hui. Mais personne ne sait à l'avance et personne ne peut, par ses inquiétudes, ajouter une seule coudée à sa vie. Quand bien même nous aurions les meilleurs docteurs, quand bien même nous aurions les meilleures conditions de vie possibles, ce n'est pas ça forcément qui va rajouter une coudée à notre vie. Dieu seul le peut, et c'est lui qui a décidé ce jour-là. Et on aura beau faire ce qu'on veut, il y a une limite qu'on ne pourra pas dépasser. Mais j'aimerais encore prendre une autre image, c'est que Dieu aussi met un terme à l'orgueil de la vanité de l'homme. La mer, l'océan, dans la parole de Dieu, elle est très présente. Elle représente ce monde avec cette vanité, vanité des vanités, tout est vanité sous le soleil, nous le savons, la vanité de l'homme. Mais ici s'arrête l'orgueil de Téphlon. Il y a une limite que Dieu ne permet pas à l'homme de dépasser et il lui fait vivre des choses pour qu'il puisse commencer à vivre autre chose. Et tant que nous serons empreints de cette vanité, quand nous serons pleins de nous-mêmes, nous ne pourrons pas entrer pleinement dans le plan que Dieu a prévu pour nous. Dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 6, Ésaïe va rapporter ce qu'il a vécu. Il a vécu quelque chose de fort. Il a vécu une rencontre, il a eu une vision extraordinaire de la gloire de Dieu et ses séraphins qui proclamaient « Saint, Saint, Saint » et l'Éternel, le Dieu des armées. Et puis, suite à cette vision qu'il a eue, au verset 5, il dira « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures, j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures et mes yeux ont vu le roi ». L'Éternel des armées. Vous allez me dire, mais quel rapport avec notre message de ce matin? Je vais y venir. Je me suis souvent posé la question, en lisant ce chapitre 6 d'Ésaïe, mais pourquoi donc Ésaïe avait-il besoin de vivre cela avant de commencer son ministère prophétique? Suite à cette vision, il va entendre au verset 8 cette voix du Seigneur « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Et Ésaïe va répondre « Me voici, envoie-moi. » Ésaïe avait donc besoin de vivre cela avant d'être envoyé, avant de commencer son ministère prophétique. Alors, pourquoi Ésaïe avait-il besoin de vivre cela? Alors je me suis posé la question, et la réponse, on l'a en comprenant qui est Ésaïe avant cela. Qui est Ésaïe? Ésaïe fait partie de l'aristocratie. C'est un aristocrate. Ésaïe fait partie de la noblesse en Israël à ce moment-là. Depuis sa tendre enfance, Ésaïe a vécu dans ce milieu-là, avec la mentalité de ce milieu-là, avec l'éducation qu'il y a dans ce milieu-là. Et depuis son enfance, on lui a répété, on lui a dit, vous faites partie, tu fais partie de l'élite d'Israël. Tu fais partie de l'élite d'Israël. Tu n'es pas comme le reste du peuple qui sont dans le péché. Tu n'es pas comme le reste du peuple, comme les pauvres, comme les classes moyennes du peuple. Toi, tu es l'élite, tu fais partie de l'élite du peuple. Et cette aristocratie en Israël avait tendance à se croire supérieure, meilleure. En fait, Ésaïe, avant cette rencontre avec Dieu, ressemblait fortement à ce pharisien dans la parabole du pharisien et du publicain que nous trouvons dans Luc chapitre 18 des évangiles. Et Jésus nous donne cette image de ce pharisien, de ce publicain, ce pharisien qui est dans le temple, qui est debout dans le temple, et qui dit à Dieu, « Je te loue, Seigneur, de ce que je ne suis pas comme le reste du peuple. » Quel orgueil. Je donne, alors là, il va vanter tous les mérites de sa piété, de sa religiosité. Je donne, je jeûne deux fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Enfin voilà, je suis pas comme ce publicain. Voilà la mentalité d'Ésaïe. C'est un aristocrate, c'est un noble en Israël. Il a grandi dans ce milieu-là. On lui a transmis cette pensée-là. Il est comme ce pharisien, fils d'Amos. Il est dans l'aristocratie. Il ne pouvait pas aller prophétiser, il ne pouvait pas aller trouver le peuple d'Israël, annoncer un message prophétique pas toujours facile à dire, tant qu'il était empreint de cette mentalité, tant qu'il n'avait pas compris que lui aussi, Ésaïe, avait les lèvres impures. D'ailleurs, sa réaction, verset 5, il ne va pas dire malheur à vous, hein. Malheur à moi. Ésaïe a pris la conscience de son orgueil, il a pris conscience de l'état dans lequel il trouve « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. » Alors, il rajoute « J'habite au milieu aussi d'un peuple dont les lèvres sont impures, parce que la vérité, elle est là aussi, mais d'abord, lui. » Sans cette vision de la sainteté de Dieu, jamais il n'aurait dit ça, jamais il n'aurait dit « malheur à moi », malheur, jamais il n'aurait dit « je suis perdu », jamais il n'aurait dit « je suis un homme dont les lèvres sont impures ». Jamais, au grand jamais, il aurait dit ça. Je suis un noble, je suis un aristocrate. Je ne suis pas comme le reste du peuple. Ésaïe avait besoin de tomber du haut de sa personne. Ici s'arrête l'orgueil de tes flots. Ici s'arrête l'orgueil de tes flots. Et tant que nous n'avons pas compris ça, quand bien même nous aurions l'intention de servir Dieu, tant que nous n'avons pas compris ça, quand bien même nous voudrions commencer un service pour Dieu, c'est pas possible. C'est pas possible. Dieu a mis des limites. Il a mis des limites. Il résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux humbles. Après, oui. Va commencer le ministère prophétique après cette fin de l'orgueil de Ésaïe. À partir de ce moment-là, il va pouvoir commencer son ministère prophétique. Allons plus loin dans notre message. Dans la Genèse, au chapitre 1er, on va lire les 5 premiers versets de la Genèse. Chapitre 1er et les 5 premiers versets. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Dieu a marqué les temps, Dieu a marqué les époques. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour, et il y a la même phrase qui revient pour le second jour au verset 8. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, et ce fut le second jour. Moi, il y a quelque chose qui m'interpelle. Dans ce verset 5, il y eut un soir. On pourrait dire que Dieu commence par la fin. Ça ne vous interpelle pas? Il commence par la fin de la journée. Il y eut un soir, il y eut un matin, il termine par la fin, par le matin, et ce fut le premier jour. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Si il y a eu un soir, c'est qu'il y a forcément quelque chose avant. Vous êtes d'accord avec moi? Or, qu'est-ce qu'il y a avant, verset 1er, au commencement, Dieu? Au commencement, Dieu a créé les cieux et la terre. Et à ce moment-là, on voit au verset 2 que la terre était informe et vide. On pourrait quoi dire? Tohu bohu, c'était chaotique, tout était mélangé, la terre, l'eau, tout était, voilà, c'était un magma, voilà, c'était informe, il n'y avait pas de forme. Aujourd'hui, voilà, on voit la terre, c'est beau, c'est bien rond, il y a des belles couleurs. Mais il n'en était pas ainsi au commencement. Et avant ce commencement, on sait qu'il y a Dieu. Il n'en était pas ainsi parce qu'il nous est dit que la terre n'avait pas de forme et en plus, elle était vide, il n'y avait pas de vie, il n'y avait pas tout ce que l'on voit aujourd'hui. C'était vide, informe et vide. Et ça ressemble à quelque chose, cette, cette terre qui était informe et vibre ressemble à la vie de quelqu'un qui n'a pas Dieu dans sa vie. Néanmoins, on voit quelque chose d'intéressant, c'est que avant ce premier jour, non seulement il y avait la terre qui était informe et vide, mais on voit une chose, c'est que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu est en train de préparer quelque chose. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Le Seigneur est en train de préparer quelque chose. Et le Seigneur est en train de préparer quelque chose dans notre vie. Et à partir du moment où nous mettons notre vie entre les mains de Jésus qui a été crucifié pour nos péchés à la croix et qui est ressuscité d'entre les morts, à partir du moment où nous mettons notre vie entre ses mains, il met fin à cette vie chaotique, il met fin à cette vie qui est informe et vie. Notre vie n'a pas de sens, elle est vide, elle est creuse, tant que nous sommes sans l'essentiel, sans que nous sommes sans celui qui est au-dessus de tout, tant que nous sommes sans celui qui est « Je suis ». Au commencement Dieu. Peut-être que quelqu'un, ce matin, se dit « Mais ma vie n'a pas de sens, c'est le désordre complet. Je ne m'y retrouve plus du tout. » J'aimerais vous dire que Dieu déjà vous a vu et il prépare quelque chose. Il prépare quelque chose. Il va mettre fin à ça. Il y aura un soir. Il y aura un soir à cette vie sans Dieu. Il y aura un soir à cette vie qui est chaotique, à cette vie qui est informe, qui n'a pas de sens, à cette vie qui est vide, qui n'apporte rien. Il va mettre un terme à cela. Il y aura un soir à cela pour un nouveau commencement. Il y aura un matin. Alléluia. Il y aura un matin pour cela. Il y aura un soir à tout cela. Il y aura un matin après un nouveau commencement avec Dieu. À partir du moment où sa lumière, il est la lumière, je suis la lumière du monde. Le Fils de Dieu est venu et il nous a apporté la lumière. Et à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Que son nom soit glorifié. Merci Seigneur. Le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse. Peut-être la vie a été difficile jusqu'à présent. Vous n'avez pas été épargné. Le soir arrivent les pleurs. J'aimerais vous dire que tout ça a une fin. Ne perdons pas courage. Comme Job, regardons au Seigneur. Comme Job, plaçons notre espérance en lui. Il est celui qui tient le monde entier dans ses mains et il nous tient dans ses mains. Il est venu au temps marqué pour mettre fin à ce péché qu'il a, qui est tenace, qui nous colle à la peau. Il est venu pour mettre fin à tout cela. Le soir arrivent les pleurs, mais le matin l'allégresse. Le Seigneur est en train de redémarrer quelque chose, de recommencer quelque chose dans notre vie. Et il veut nous bénir. Alléluia. Dieu reste le Dieu de bénédiction. Il reste le Dieu de l'Église. Oui ou non? Et il tient l'Église dans ses mains. Et il peut mettre un terme à tout ce que nous vivons. Il peut mettre une fin à tout ce que nous vivons ensemble dans l'Église pour un nouveau matin. Alléluia. Afin que ce matin soit rempli d'allégresse, le Seigneur nous tient dans sa main. Alléluia. Ce fut le premier jour, lorsque Dieu a dit que la lumière soit. Alléluia. Il appela la lumière jour, et les ténèbres, nuit. Les choses sont maintenant différenciées. Dans un monde qui ne sait plus ce qu'est le mal et ce qu'est le bien, Dieu, lui, éclaire. Dans un monde qui ne sait plus ce qu'est la lumière et les ténèbres, Dieu, lui, nous montre la différence. Il appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Il nous montre la différence des choses, la différence des valeurs que nous pouvons avoir dans notre vie. Il nous montre la différence. Et ça, ça vient par une révélation du Saint-Esprit dans notre cœur. Il apporte la lumière. Il nous convainc de péché. Il est celui qui nous montre ce qui ne va pas dans notre cœur. Et nous voulons dire oui, Seigneur. Comme Ésaïe, en son temps, malheur à moi. Mais Ésaïe n'est pas resté à dire toute sa vie, malheur à moi. Après cela, quelque chose de nouveau a commencé. En lui, quelque chose de nouveau a commencé avec lui aussi. Nous voulons nous réjouir devant le Seigneur. Nous voulons nous réjouir devant celui qui met un terme à toute chose pour un nouveau commencement. Il y a un nouveau commencement possible pour chacun d'entre nous. Il y a un nouveau commencement possible pour l'Église. Que Dieu soit glorifié. Amen. L'heure a passé, on va continuer la suite dimanche prochain. Mais retenons une chose, on verra tout cela dimanche prochain. Retenons une chose, c'est que le Seigneur nous tient dans sa main. Retenons le fait que Dieu met un terme. Il met une fin à toutes nos épreuves. Il met une fin à nos prétentions. Il met une fin au diable. Il met une fin à toutes les attaques que le diable pourrait nous adresser. Mais il est celui qui nous tient dans ses mains et personne ne pourra nous ravir dans ses mains. Merci Seigneur. On va ensemble prier le Seigneur qu'il nous aide les uns et les autres. Te bénissons Seigneur notre Dieu. Et te rendons grâce. Toi qui es le commencement et la fin, tu englobes tout et tu tiens tout. Tu dis et la chose arrive. Tu dis et elle n'existe plus. Seigneur, nous voulons vraiment nous soumettre à toi. Toi qui tiens toutes choses entre tes mains, tu nous as désirés, tu nous as voulu. Nous étions dans ton cœur et tu as fait en sorte que nous puissions être sur cette terre. Et nous te bénissons pour cela. Jusqu'au jour où tu viendras nous chercher, où tu auras mis un terme à notre vie. Mais lorsque nous aurons, Seigneur, terminé notre vie ici-bas, et c'est pour la commencer avec toi dans la gloire. Oh, quel bonheur! Il y aura un soir à notre vie ici-bas. Il y aura une fin à notre vie ici-bas pour un commencement avec toi dans l'éternité. Oh, que ton nom soit glorifié, Seigneur. Je veux te prier pour celles et ceux qui vivent par des temps difficiles, qui vivent des épreuves, qui sont comme secoués, comme ces vagues qui remuent le sable et sont dans tous les sens. Mais il y a un terme à tout cela. La furie des vagues, la furie des épreuves s'arrêteront. Parce que tu as mis une limite qu'elles ne peuvent pas franchir. Comme tu as mis une limite à Satan et les attaques de Satan envers Job, envers Pierre et envers bien d'autres. Tu as mis une limite, Seigneur. Nous sommes entre tes mains, Seigneur. Tu es grand pour construire, pour reconstruire, pour nous faire vivre autre chose encore. Nous voulons garder confiance et espérance en toi. Oh, béni sois-tu, Seigneur. À toi soit toute la gloire, Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, je vous souhaite un bon dimanche.